Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Jérôme, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous allons maintenant commencer le chapitre 15 de Saint Marc, deuxième partie de la Passion. Donc sur le polycopier qui contient les chapitres 11 à 16, l'explication des Pères de l'Église, à la page 29. Donc nous sommes presque à la fin de cet évangile selon Saint Marc, qui est beaucoup plus court que les autres, puisqu'il n'a que 16 chapitres. Donc Saint Marc, chapitre 15, versets 1 à 5. « Dès le matin, les princes des prêtres, ayant délibéré avec les anciens et les scribes et tout le conseil, lièrent Jésus, l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Et Pilate l'interrogea, « Êtes-vous le roi des Juifs ?» Et Jésus lui répondit, « Vous le dites. » Les princes des prêtres l'accusèrent de beaucoup de choses. Pilate l'interrogea de nouveau en disant, « Vous ne répondez rien. Voyez de combien de choses ils vous accusent. » Mais Jésus ne répondit plus rien, de sorte que Pilate était étonné. On a déjà vu donc ce silence de notre Seigneur pendant la Passion. Jésus autem tachebat, Jésus se taisait. J'ai déjà expliqué, donc je n'y reviens pas, comment notre Seigneur Jésus-Christ a offert ce silence pour réparer tous les péchés contre la charité, surtout les péchés de calomnie, de médisance, de jugement téméraire, de mensonge. Et là, on voit à quel point on offense notre Seigneur Jésus-Christ, justement en parlant trop, parlant quand il ne faut pas, parlant comme il ne faut pas, en parlant à qui il ne faut pas, en ne parlant pas à qui il faudrait parler. Différentes façons de pécher contre la charité. On peut pécher contre la charité en action, mais on peut pécher aussi contre la charité par omission. Donc il faut que nous fassions notre examen de conscience. On voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ ne parle pas parce qu'il savait qu'en face de lui, Pilate et les pharisiens et les princes des prêtres, les membres du Sanhédrin, dans leur immense majorité, ne cherchaient pas le vrai. Notre Seigneur Jésus-Christ parle lorsque, en face de lui, il a un interlocuteur qui recherche le vrai. Si on a devant nous des gens qui ne cherchent pas le vrai, on perd un peu son temps de parler. Il vaut mieux se taire et prier. Je vous l'ai déjà expliqué souvent, en tant que prêtre, je suis souvent obligé d'agir comme cela, et quand je me rends compte qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui cherche le vrai, alors je prends mon temps pour parler avec cette personne, essayer d'élever cette personne vers le bon Dieu. Mais si je me rends compte que j'ai devant moi quelqu'un qui ne cherche pas le vrai, bon, je vais passer peu de temps avec cette personne, je ne vais pas être cassant ni vulgaire, mais je vais un petit peu le renvoyer, puisque je vois qu'il ne cherche pas Dieu. C'est que, tout simplement, le fruit n'est pas encore mûr, il faut parfois attendre. Le Père nous explique que le Sauveur ne voulut rien répondre, car en se justifiant ses fausses accusations, le gouverneur lui renvoyait. Les fruits immenses de la croix étaient différés. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, savait que c'était le temps de sa passion. Et même si Pilate est convaincu de l'innocence de notre Seigneur Jésus-Christ, Pilate ne va rien faire pour délivrer notre Seigneur. C'est ça le drame. Pilate sait très bien où est le vrai. Il sait où est le vrai, où est le faux. Il va mettre au même niveau Barabbas et notre Seigneur Jésus-Christ. En mettant Barabbas et notre Seigneur Jésus-Christ sur le même niveau, il met le vrai et le faux sur le même niveau. La gravité du péché de Pilate, c'est que Pilate sait très bien où est le vrai, où est le faux. C'est une chose de mettre sur les mêmes niveaux le vrai et le faux, parce qu'on ignore où est le vrai, mais quand on sait très bien où est le vrai, de mettre le vrai et le faux sur le même niveau, de donner la même valeur au vrai et au faux, c'est un péché épouvantable qu'on appelle le péché de libéralisme. Le péché de libéralisme, c'est ça, donner la même valeur au vrai et au faux, donner la même valeur à notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, deuxième personne de la Sainte Trinité, et à Barabbas, un bandit. Alors posez-nous cette question, combien de fois est-ce que j'ai été coupable, moi aussi, de ce péché de libéralisme en donnant les mêmes droits au vrai et au faux? Le faux n'a aucun droit en tant que tel. Et donc, c'est la même chose en matière de respect par rapport à la divinité elle-même. Beaucoup de gens nous disent, monsieur l'abbé, aujourd'hui dans le monde moderne, il faut donner les mêmes droits à toutes les religions. Non, mais attendez. Chaque religion est fondée par un Dieu différent. Il y a un vrai Dieu et des centaines de faux dieux. Donc il y a une seule religion fondée par le Dieu véritable, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la religion divine, et des centaines de religions, fondées par des centaines de faux dieux. Et donc, puisque je sais très bien où est le vrai Dieu et où sont les faux dieux, je n'ai pas le droit de donner les mêmes droits au vrai Dieu et au faux Dieu. Le simple fait que je donne les mêmes droits au faux Dieu et au vrai Dieu, à la fausse religion, aux fausses religions, à la vraie religion, c'est déjà en soi un blasphème. Encore une fois, Dieu étant Dieu, n'acceptera pas de partager sa gloire avec des faux dieux. Voilà ce qu'il faut comprendre. Versets 6 à 15, Saint Marc chapitre 15. Or, le jour de la fête, il avait coutume de leur délivrer un des prisonniers, celui qu'ils demandaient. Il y en avait un nommé Barabbas, qui avait été emprisonné avec des séditieux pour un meurtre qu'il avait commis dans une émeute. La foule étant montée, se mit à réclamer ce que Pilate leur accordait toujours. Pilate leur répondit et dit, « Voulez-vous que je vous délivre le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les princes des prêtres l'avaient livré. Mais les pontifes excitèrent la foule à demander qu'il délivrât plutôt Barabbas. Pilate, prenant de nouveau la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse au roi des Juifs ?» Mais ils crièrent de nouveau, « Crucifiez-le !» Pilate cependant leur disait, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Il criait encore plus fort, « Crucifiez-le !» Pilate, voulant satisfaire le peuple, leur remit Barabbas et après avoir fait flagellé Jésus, il le livra pour être crucifié là. Donc ici, dans ce passage, on voit très bien le double crime de Pilate. Le monde moderne considère que Pilate est un brave gars, un brave type, comme on dit. Parce qu'ils ont l'impression que Pilate essaie de délivrer notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que Pilate sait très bien que notre Seigneur Jésus-Christ est innocent, il va le dire plusieurs fois. Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé de mal en lui, il est complètement innocent. Mais tout en connaissant, sachant très bien l'innocence de notre Seigneur Jésus-Christ, Pilate va accepter de condamner l'innocent au profit du coupable, Barabbas. Et c'est ça le péché de Pilate. C'est un péché de l'intelligence, c'est ça qui est terrible. Les péchés intellectuels sont bien plus graves, parce qu'on touche à ce qui fait l'essence même de l'homme. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc quand le cerveau est malade, c'est bien plus grave que quand le corps lui-même est malade. Quand l'intelligence est malade, c'est encore bien plus grave. Quels sont ces vices de l'intelligence? Le vice de l'intelligence s'introduit dans l'intelligence au moment précis où l'intelligence se refuse à agir pour ce pourquoi elle est faite. Dieu nous a donné une intelligence, non pas pour que nous en fassions ce que nous voulons. Dieu nous a donné une intelligence pour découvrir le vrai. C'est pour ça qu'on dit que l'objet propre de l'intelligence, c'est le vrai. Lorsque je refuse d'utiliser mon intelligence pour découvrir le vrai, ou lorsque, sachant très bien où est le vrai et le faux, je refuse d'utiliser mon intelligence pour me soumettre au vrai et que je refuse de prendre parti alors que je sais très bien où est le vrai et où est le faux, c'est un péché grave contre l'intelligence. Et Pilate est coupable d'un deuxième péché. On voit très bien sur verset 11. Ici, c'est pas très développé. C'est plus développé dans d'autres évangiles que nous verrons après. Les pontifes, c'est-à-dire les membres du Sanhédrin, excitèrent la foule à demander qu'il délivra plutôt Barabbas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans un autre évangile, il est précisé que, en fait, ils ont utiliser de l'argent pour acheter le suffrage des gens. Donc ils ont envoyé des soldats passer dans les différentes maisons de Jérusalem pour leur dire, voilà, cet après-midi, Pilate va demander lequel des deux voulez-vous qu'on vous délivre, Barabbas ou notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il faut demander Barabbas, hein. Donc nous on sera derrière au fond de la place, là, on va commencer à crier Barabbas, Barabbas, il faut que tout le monde suive, pour être sûr que vous votiez bien, que vous sortiez le bon suffrage pour cette élection, eh bien on vous donne de l'argent, voilà, on vous donne une pièce d'or, voilà de l'argent, et vous votez Barabbas. Et ça, c'est terrible, parce que ça va entraîner un deuxième péché chez Pilate. Les gens n'aiment pas beaucoup quand j'explique ces choses-là, pourtant c'est la pure vérité. Qu'est-ce qu'a fait Pilate? On voit très bien, même si c'est pas très détaillé dans l'évangile selon saint Marc, on voit très bien que Pilate va essayer de délivrer notre Seigneur Jésus-Christ, comme il sait que notre Seigneur est innocent. En plus, sa femme s'en est mêlée. Dans notre évangile, il est dit que sa femme, qui s'appelait Claudia Procula, qui est canonisée par l'Église, de sûr, elle s'est convertie, elle, Sainte Claudia Procula. Claudia Procula, Sainte Claudia, est venue voir son mari en lui disant « J'ai eu un rêve cette nuit. » Les Juifs étaient très, très superstitieux. « J'ai eu un rêve cette nuit et j'ai beaucoup souffert à cause de ce rêve et je sais que cet homme est innocent. Ne t'en mêle pas. Ne le condamne pas, il est innocent. » Donc, raison plus pour Pilate, pour faire son devoir. Faire son devoir et libérer notre Seigneur. Alors qu'est-ce que va faire Pilate? Parce que justement, il cherche à s'en tirer sans suivre sa conscience. Il cherche à s'en tirer tout en sachant très bien qu'il ne va pas faire ce qu'il doit faire. C'est triste, mais c'est comme ça. Et donc, il va encore essayer de changer le cœur des Juifs en envoyant notre Seigneur Jésus-Christ se faire flageller. Il va dire au bourreau, le tue pas, hein, mais tu l'abîmes bien, mais sans le tuer, pour que, après, lorsque les Juifs vont voir le corps de notre Seigneur couvert de sang, quand même, il laisse partir. Et donc, il va envoyer notre Seigneur Jésus-Christ se faire flageller. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est couvert du sang de la flagellation, à moitié mort déjà? Il va le recouvrir du manteau des foules, du manteau pourpre, et il va le présenter à son temple en disant à la foule, voici l'homme. Il essaye de pousser les Juifs à dire, bon, ben, ça va, ça suffit, il en a assez vu, il en a assez bavé, ça suffit pour aujourd'hui, on libère Barabbas. Non, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que fait Pilate? C'est ça qu'il faut arriver à comprendre, même si c'est un petit peu compliqué à comprendre pour certains d'entre vous qui ne veulent pas comprendre peut-être. Pilate, le gouverneur romain, essaye d'avoir le nombre avec lui. Il se dit, si j'arrive à avoir plus de la moitié des Juifs qui sont devant moi sur la place, en faveur de notre Seigneur, je vais arriver à libérer notre Seigneur. Et donc, il va le faire flageller pour changer la mentalité, l'esprit des Juifs. Mais ça a raté, ça n'a pas marché comme il le voulait. Et parce que les pontifes avaient excité la foule, parce que les pontifes avaient corrompu la foule va hurler, notre Seigneur. C'est lui qu'on veut condamner. Et quand il demande, mais qui voulez-vous que je libère? Barabbas! Alors malheureusement, le beau projet de Pilate n'a pas fonctionné correctement, et Pilate se rend compte que la majorité est pour Barabbas. Et donc il va soumettre le vrai qu'il connaît très bien, le vrai c'est notre Seigneur Jésus-Christ, il connaît l'innocence de notre Seigneur Jésus-Christ, même s'il ignore totalement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est pas ses histoires, il s'en fiche complètement. Mais il sait que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas coupable. Et donc, il va essayer d'obtenir la libération de notre Seigneur Jésus-Christ en utilisant des moyens qui sont pas normaux, qui sont pas moraux. Et ça n'a pas marché. Et donc, il va être obligé de pécher en suivant le nombre. Et ce péché, encore plus grave que le premier, je vous ai dit, le premier péché de Pilate, c'est le péché par lequel il donne les mêmes droits aux vrais et aux faux, à Barabbas et à notre Seigneur Jésus-Christ. Entre Seigneur et à Barabbas, ça c'est le péché de libéralisme, il va rajouter un deuxième péché par lequel il va soumettre le vrai au nombre. C'est le nombre qui va déterminer où est le vrai. Or, le vrai n'est pas déterminé par le nombre. Le vrai a une valeur objective. 2 plus 2, ça fait 4, ça ne fait pas 5 ou 6. Et quel que soit le nombre des gens qui pensent que ça fait 5 ou 6, si 2 plus 2, ça fait 4, et même s'il y a 95,5% ou 99,9% des gens interrogés qui pensent que 2 plus 2 ça fait 5 ou 6, ils ont tort.
quel que soit leur nombre. Donc Barabbas est coupable du péché qu'on appelle le péché de démocratie. C'est ça, la démocratie. Les gens vont nous dire, j'entends ça tout le temps, même monsieur l'abbé, vous ne comprenez rien, vous dites des bêtises. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Mais non. La démocratie, c'est le pouvoir du nombre. Ce n'est pas le pouvoir du peuple. Le peuple, c'est quoi? C'est n'importe quoi. C'est plus qui a dit que la démocratie, c'était l'art d'agiter les peuples avant de s'en servir. L'art d'agiter le peuple avant de s'en servir, c'est exactement ça. Donc Pilate est coupable du péché de libéralisme parce qu'il donne les mêmes droits à Barabbas et à notre Seigneur, tout en sachant très bien que notre Seigneur n'est pas coupable et que Barabbas est coupable. Et il tombe dans un deuxième péché de l'intelligence, le péché de démocratie, par lequel il soumet le vrai au nombre. Or, le nombre est pour Barabbas, contre notre Seigneur Jésus-Christ, donc, eh bien, il va livrer notre Seigneur pour être crucifié. Et donc, si vous rajoutez libéralisme plus démocratie, eh bien, on arrive à l'apostasie. Le péché du monde moderne, il est là. Pour ça, cette passion est tellement importante. Quand je prêche les exercices de Saint-Denis, j'explique en long, en large et en travers ce passage, pour bien montrer que le péché du monde moderne, c'est un péché, le péché de libéralisme associé au péché de démocratie. Libéralisme, même droit au vrai ou au faux, démocratie, le nombre va déterminer où est le vrai. Bien non, je suis désolé, le nombre n'a rien à voir avec le vrai n'a rien à voir avec le nombre. Objectivement parlant, le vrai existe indépendamment de notre volonté parce que nous sommes objectivistes et pas subjectivistes. L'objet de l'intelligence, c'est le vrai. Donc on soumet le vrai, on soumet l'intelligence au vrai et on ne soumet pas le vrai à l'intelligence. Parce qu'il y a une intelligence différente pour chaque personne. Donc si vous soumettez le vrai à chacun cette intelligence, il y a autant de vérité que l'intelligence. Si au contraire vous soumettez toutes les intelligences au seul vrai, toutes les intelligences vont être obligées de reconnaître le même vrai. On va tomber dans ce qu'on appelle l'objectivisme. L'objectivisme permet de connaître la vérité. Le subjectivisme par lequel je soumets le vrai, c'est-à-dire l'objet aux différents sujets, aux différentes intelligences, c'est l'intelligence, donc le sujet devient premier, subjectivisme, on tombe dans le réalisme. Là, je veux dire, on tombe dans l'idéalisme, c'est la philosophie d'Emmanuel Kant, alors que l'objectivisme, c'est la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Alors voyons un petit peu ce que disent les pères de l'Église en bas de la page 29. Saint Bède le Vénérable explique que jusqu'à ce jour, cette demande qu'ils ont fait avec des instances si pressantes, c'est comme attaché à eux, aux Juifs. Rappelez-vous ce que vont dire les Juifs, cette parole qui est dans toute lettre dans l'Évangile et que les Juifs donneraient. Ils paieraient tellement cher, ils paieraient tellement d'argent pour obtenir que cette parole n'ait jamais été prononcée, qu'elle ne soit pas dans les livres sacrés pourtant liés, hein, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Pour avoir préféré, en vertu du choix qui leur était laissé, à Jésus un voleur, au Sauveur un assassin, ils ont justement perdu le salut et la vie. Ils se sont comme dévoués au brigandage et aux séditions, et ils ont fini par perdre leur patrie, leur royaume qu'ils avaient aimé plus que notre Seigneur Jésus-Christ, sans qu'ils aient jamais pu recouvrer la liberté du corps et de l'âme. Ils sont devenus esclaves du nombre. Ils sont devenus esclaves de leur intelligence libérée de sa connexion avec le vrai. Lorsqu'une intelligence n'est plus connectée au vrai, elle ne sert plus à rien. On ne peut rien faire d'une intelligence qui est déconnectée du vrai. C'est comme un enfant qui n'a plus de cordon ombilical qui le réunit au cœur de sa mère. Il va mourir. Nous voyons ici les deux boucs. L'un mis en liberté, appelé le bouc émissaire, et renvoyé dans le désert couvert des péchés du peuple. L'autre est immolé comme un agneau pour les péchés de ceux qui recouvrent la liberté. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va être préféré. Je veux dire, Barabbas va être préféré à notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc Barabbas va être mis en liberté. Et il faut vraiment méditer ces passages. Ce passage est très important parce qu'il nous aide à comprendre que la passion, ce n'est pas simplement quelque chose de passé. Je vous l'ai déjà expliqué. La passion, c'est quelque chose d'aujourd'hui. À chaque fois que je tombe dans le péché de libéralisme, à chaque fois que je tombe dans ce péché de démocratie, eh bien, je renouvelle la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien de fois j'entends cette phrase vraiment triste, mais très fréquemment entendue, hélas, même parfois par des catholiques. Mais monsieur l'abbé, que voulez-vous qu'on fasse? Tout le monde pense ainsi. Tout le monde pense ainsi, donc on est bien obligé de suivre un peu la volonté générale. Bien sûr, moi je suis pour notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur l'abbé? L'immense majorité est pour Barabbas. Alors vous n'y pensez pas, on ne peut plus rien faire, il faut se taire. Bien non. Même s'il n'y a qu'une personne ou deux personnes pour notre Seigneur Jésus-Christ, que l'immense majorité de la population, de la foule, est pour Barabbas, eh bien, puisque vous savez très bien que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas coupable, et l'innocent, et que Barabbas est coupable parce que c'est un meurtrier, eh bien, il faut demander la libération de notre Seigneur. Mais ça va me coûter la vie. Mais il vaut mieux mourir dans la vérité que vivre dans l'erreur. La portion qui appartient au Seigneur est toujours immolée. Celle du démon qui est leur maître, c'est le sens du mot Barabbas, se précipite dans l'enfer avec une fureur aveugle. Son dessein en cela était que les Juifs, rassasiés des souffrances et des opprobres de Jésus, cessassent d'avoir soif de son sang et de sa mort. Donc, on voit encore ici, avec ces textes des Pères, que Pilate essaye vraiment de délivrer notre Seigneur. Mais il prend les moyens qui sont faux. Il veut bien délivrer notre Seigneur, à condition d'utiliser son intelligence de façon fausse. Il refuse d'utiliser son intelligence avec le mode d'emploi que le monde bon Dieu nous a donné pour l'usage de cette intelligence. Encore une fois, je ne peux pas faire de mon intelligence ce que je veux. Je ne peux pas faire de mon corps ce que je veux. Je ne peux pas faire de mes sens ce que je veux. Mais je suis libre. Non, vous n'êtes pas libre. Non, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre parce que ça vous plaise ou non, vous allez mourir et vous serez jugé justement sur votre usage de l'intelligence. Je pense qu'une des parties les plus importantes de notre jugement, le jour où on va mourir, ça va être le jugement de notre intelligence. Qu'as-tu fait de l'intelligence que je t'ai donnée? Rends compte de ta gestion, va nous dire notre Seigneur. Juste après, au moment de la séparation entre notre corps et notre âme, au moment précis de notre mort, rends compte de ta gestion. Je t'ai donné une intelligence. Je t'ai donné une intelligence qui a fait de toi un être raisonnable. Tu es largement au-dessus des dauphins, des poules, des chats, des chiens et des chèvres. Je t'ai donné une intelligence. Qu'as-tu fait de cette intelligence? As-tu utilisé cette intelligence selon le mode d'emploi que je t'avais donné pour le bon usage de cette intelligence? Ou as-tu utilisé au contraire ton intelligence pour faire ce que tu voulais? As-tu soumis ton intelligence à la vérité qui existait objectivement devant toi? Ou as-tu voulu soumettre la vérité objective au sujet qu'était ton intelligence? Et si j'ai utilisé correctement mon intelligence, si j'ai vraiment recherché le vrai, et après, en enclenchant ma volonté, si j'ai atteint la vérité par l'usage de ma volonté, eh bien à ce moment-là, le bon Dieu pourra me dire, venez, bon et fidèle serviteur, possédez le royaume qui a été préparé pour vous et pour les anges. Et si au contraire, j'ai refusé d'utiliser mon intelligence pour servir le vrai, chercher le vrai, pour l'atteindre avec la volonté, le bon Dieu sera obligé de me dire, éloignez-vous de moi, maudit, et allez au feu de l'enfer préparé pour Satan et pour ses anges. Passons à la page 30, versets 16 à 20 du chapitre 15 de Saint-Marc. Page 30. Alors, les soldats le conduisirent dans la cour du prétoire, puis ils rassemblent toute la cohorte. Ils revêtent notre Seigneur de pourpre et lui mettent sur la tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Et ils se mirent ensuite à le saluer. Salut, roi des Juifs! Ils lui frappèrent la tête avec un roseau et crachaient sur lui en fléchissant les genoux et ils l'adoraient. Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements puis l'emmenèrent pour le crucifier. Donc dans ces derniers versets, nous voyons deux choses importantes. La flagellation que nous venons juste de voir. Après l'avoir fait flageller, il le livra pour être crucifié. Ce verset 15, puis au verset 17, le couronnement d'épines. Bon, tous les pères expliquent de la même façon, il y a consensus des pères. La flagellation, oui, a été offerte en réparation de tous les péchés d'impureté, de vanité et de sensualité. C'est pour cela que la flagellation était tellement forte. Sur le linceul de Turin, c'est ce linceul qui a reçu le cadavre de notre Seigneur Jésus-Christ pendant les 36 heures qui ont séparé sa mise au tombeau et sa résurrection le dimanche de Pâques au matin. Eh bien, il est resté dans ce linceul de lin, ce qu'on appelle maintenant le linceul de Turin, parce qu'il est conservé à Turin. Et vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ a fait un miracle extraordinaire et a imprimé en taches brunâtres, qu'on voit très peu d'ailleurs, puisque c'est un négatif photographique, il a imprimé l'image de son corps. Mais lorsqu'on prend une photographie de ce négatif, on obtient un positif. C'est vraiment, le linceul de Turin est une relique pour le monde moderne imprégné d'orgueil, qui compte beaucoup trop sur la science et pas assez sur son âme. Et donc, quand on prend une photo d'un négatif, on obtient un positif. De négatif l'un sur l'autre, ça fait un positif. Et à ce moment-là, on voit très nettement le visage de notre Seigneur, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous verrez à ce moment-là que le corps en face ventrale et en face dorsale est constellé des impacts de la flagellation. Les bourreaux ont utilisé ce qu'on appelle le flagrum romain, un manche de bois avec deux ou trois lanières. Et au bout de ces lanières, il y avait deux petits osselets ou de plomb ou de fer, parfois d'os. Et la flagellation était quelque chose de tellement, tellement violent, tellement virulent, qu'il y avait une loi qui disait chez les Juifs pas plus de 40 coups, parce qu'ils savaient qu'au-delà de 40 coups, personne mourait. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a été mis à mort, conduit à la mort, condamné à mort par les Juifs, mais selon la loi romaine. Et la loi romaine, puisque les Juifs avaient perdu le droit de mise à mort, de mettre à mort, ils avaient perdu ce qu'on appelle le jus gladi, le droit de glaive, à cause de leur révolte constante. Les Romains l'avaient enlevé au procureur juif, au chef du Sanhédrin juif. Et donc, ils devaient avoir l'autorisation du gouverneur romain pour pouvoir condamner quelqu'un à mort. C'est pour ça qu'ils vont faire des pieds et des mains pour obtenir la condamnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, on voit très bien sur le linceul de Turin, j'ai eu l'occasion de le voir en 1975 avec tout le séminaire, Mgr Lefebvre était là. Et on a pu prier à Turin devant ce linceul extraordinaire. Et on voit très bien, surtout sur une photographie de linceul, donc un positif, on voit très bien que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ est en face dorsale et en face ventrale, sur le cou, le thorax, les bras et les jambes, est complètement couvert des marques de la flagellation. Il est absolument évident, comme on connaît très bien, les archéologues savent très bien à quoi correspondait le flagrum romain, et donc ils ont pu déterminer que notre Seigneur Jésus-Christ a reçu au moins 60 coups, et encore, il y a des coups qui ont dû échapper là, qu'on ne peut pas vérifier, parce qu'il suffisait que le même coup porte exactement au même endroit, ça ne fait qu'une seule marque, alors qu'il y a eu plusieurs coups. Et donc, tous les archéologues qui ont étudié sérieusement, avec honnêteté intellectuelle, le linceul, il y en a quand même quelques-uns qui l'ont fait de façon honnête, ont déterminé que notre Seigneur avait reçu au moins un minimum de 60 coups. Or, il n'est pas possible, même pour un homme en pleine force de l'âge, de recevoir 60 coups du flagrum romain sans mourir. C'est impossible. Au-delà de 40, c'est impossible. Vous ne pouvez pas s'en sortir. Donc, il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ, là, a fait un miracle, d'autant plus qu'il avait déjà perdu beaucoup de sang au moment de l'hématodrosis. N'oubliez pas que pendant Gethsémani, pendant l'agonie de 3 heures, il a eu cette sueur de sang qui lui a déjà fait perdre pas mal de sang. Et donc, notre Seigneur avait déjà perdu beaucoup de son sang. Eh bien, s'il n'est pas mort pendant la flagellation, c'est simplement parce qu'il a voulu faire un miracle, et par miracle, maintenir son corps en vie, alors que selon les lois de nature, il aurait dû mourir à ce moment-là. Alors, pourquoi telle boucherie, il n'y a pas d'autre mot? Bien justement, parce que la flagellation a été offerte en réparation de tous les péchés d'impureté. Une fois, il y a une dame qui est venue me voir et qui m'a dit, Monsieur Labelle, elle venait de voir le film de Mel Gibson sur la passion de notre Seigneur. Il m'a dit, Monsieur l'abbé, c'est épouvantable, cette flagellation, c'est une boucherie. Et je lui dis, mais madame, qu'est-ce que vous croyez qu'était la flagellation romaine ou juive? Sinon, justement, une boucherie. Et la plupart des gens même mouraient pendant la flagellation, tellement c'était une boucherie, justement. Et là, il faut reconnaître que le passage de la flagellation dans le film de Mel Gibson est remarquablement bien fait. On peut dire ce qu'on veut sur Mel Gibson. C'était un catholique, attention, un catholique traditionnel, même célébracantiste. Son père est un grand célébracantiste australien. Et Mel Gibson est toujours catholique. Bon, malheureusement, hélas, il ne vit plus comme un catholique. C'est très, très difficile presque impossible dans ces milieux d'Hollywood, ces milieux de sphère cinématographique, de vivre un état de grâce. Et là, il n'est pas resté avec son épouse légitime, et dernière nouvelle, il s'était mis en concubinage, hélas. Il faut prier pour lui, parce que il est toujours baptisé catholique, et je pense qu'il a toujours la foi. Donc prions pour lui, pour qu'il retrouve la foi. Il avait dit dans une interview que j'avais lue qu'il avait offert ce film sur la passion. Il faut quand même un certain courage par les temps qui courent de faire un film sur la passion. Il avait fait un film, ce film en réparation de tous les mauvais films qu'il avait fait auparavant. C'est possible. Alors continuons l'explication donnée par les pères de l'Église. Page 30. Ce sont les opprobres du Sauveur qui nous ont délivrés de nos opprobres. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ prend nos péchés sur ses propres épaules. Nous qui sommes coupables, nous refusons de nous considérer comme coupables. Alors celui qui est l'innocence même prend notre culpabilité sur ses propres épaules et devient coupable à notre place pour payer les choses que nous devrions payer, que nous refusons de payer et que Dieu dans sa miséricorde va payer pour nous. Donc ces liens ont brisé nos chaînes. La couronne d'épines qui a ceint sous son front nous a mérité le diadème du royaume. Cette couronne d'épines qu'on va mettre sur le front de notre Seigneur Jésus-Christ va représenter la couronne du salut pour chacun d'entre nous. Donc cette couronne d'épines, ici tous les pères de l'Église sont aussi d'accord, de même que la flagellation a été offerte en réparation pour tous les péchés d'impureté, la couronne d'épines, elle, a été offerte en réparation pour tous les péchés d'orgueil. À chaque fois que je place la couronne du roi sur mes épaules, sur ma tête, pardon, en disant « je ne servirai pas ». Donc notre Seigneur est couronné d'épines pour réparer tous les péchés d'orgueil. Vous savez que le roi Saint-Louis a récupéré la couronne d'épines et l'a placée dans un magnifique reliquaire de cristal et a placé ce reliquaire dans une des plus belles églises de la chrétienté, la Sainte-Chapelle à Paris, la plus belle église gothique, pour servir d'abri, en quelque sorte de protection, d'écrin pour la couronne d'épines. Pour ceux qui l'ont vue, je pense qu'elle est exposée, elle était exposée avant que le Vendredi Saint. Pour ceux qui l'ont vue, quand on voit la couronne d'épines, on est toujours déçu parce qu'on attend une couronne d'épines. En fait, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas été strictement couronné qu'une couronne d'épines. Il a été couronné avec un casque d'épines. C'est pour ça qu'on le voit très bien sur le linceul de Turin, tout le cuir chevelu est percé des épines par les épines. Spina Christi, l'épine du Christ, avec une épine longue de 2 à 2,5 cm. Très dur comme l'acier presque, et qui pouvait pénétrer dans la chair et qui va augmenter évidemment le degré de saignement de notre Seigneur, parce que quand on touche au cuir chevelu, on saigne beaucoup, c'est très vascularisé. Et donc, cette couronne d'épines est offerte en réparation de tous les péchés d'orgueil. Encore une fois, ceux qui l'ont vu sont déçus parce que, en fait, les différentes épines de la couronne ont été divisées en tout petits morceaux et ont été répandues de par le monde. Dans le monde entier, il y a des reliques, des épines de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je pense qu'il n'y en a plus du tout sur ce qu'on appelle la couronne d'épines. Et ce qu'on appelle la couronne d'épines n'est pas la couronne elle-même, mais un cercle de joncs tressés qui avait été placé sur le casque d'épines qui était placé lui-même sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ, un peu comme un bonnet d'épines, si vous voulez. Pour maintenir ce bonnet d'épines, ce casque d'épines en place, les soldats romains ont placé autour de ce casque d'épines comme un cercle de joncs tressés, et l'ont enfoncé en force à coups de bois, à coups de bâton, pour maintenir la couronne d'épines en place. Donc en fait, la couronne d'épines, c'est un jonc, une couronne de joncs. Il n'y a plus d'épines dessus. Donc j'espère que tous ceux qui m'écoutent auront un jour le privilège de voir cette couronne. Couronne d'épines qui est vraiment un signe extraordinaire de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment en méditant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on peut comprendre la grandeur de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous. Quand je prêche ces exercices, j'explique toujours un détail dans l'histoire qui m'a toujours beaucoup impressionné. Je ne sais plus en quelle année c'était, je crois que c'était sous Hollande, l'illustrissime Hollande. Et il y a eu la visite protocolaire du président de Pologne, dont j'ai oublié le nom à l'époque, et il est venu avec sa femme. Et le président de Pologne est catholique pratiquant, et au moins catholique moderniste pratiquant. Et il est venu avec son épouse visiter Hollande, et visiter Paris donc, pour l'histoire diplomatique. Et après s'est occupé de ses affaires politiques. Hollande, qui en a pas une, a dit au président de Pologne, eh bien, écoutez, monsieur le président, puisque vous êtes ici dans Paris, la ville de la lumière, la ville de la philosophie de la lumière, s'il y a un endroit à Paris que vous souhaiteriez voir, vous et votre épouse, dites-le-moi, je me mettrai en quatre pour vous y conduire. Et j'aurais voulu être là, comme une petite souris dans la pièce, quand le président de la République de Pologne, le président de Pologne a dit, oui, mon épouse et moi-même, nous aimerions beaucoup pouvoir aller vénérer la couronne d'épines. J'aurais voulu voir la tête de Hollande. Je ne sais même pas s'il savait ce que c'était. Il a dû demander à un secrétaire, c'est quoi ce truc-là? Et le secrétaire a dû lui dire, c'est la couronne d'épines du Christ, il paraît, c'est la légende qui dit, et je crois qu'elle est à Notre-Dame, il faut voir ça avec l'évêque, le cardinal archevêque de Paris. Alors évidemment, ils ont obtenu l'autorisation du cardinal, et le président de la Pologne et son épouse sont allés vénérer la couronne d'épines. J'aurais bien voulu vraiment être là, voir la tête de Hollande. L'histoire ne dit pas si Hollande est allé accompagner son autre illustre, mais comme quoi le bon Dieu sert de tout. Donc nous avons été guéris par les blessures de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Notre Seigneur Jésus-Christ subit la flagellation à cause de mes péchés. Notre Seigneur Jésus-Christ subit le couronnement d'épines à cause de mes péchés. Notre Seigneur Jésus-Christ est publiquement vilipendé, traité comme un fou, traité comme un vaurien, traité comme un esclave à cause de mes péchés. Notre Seigneur Jésus-Christ va porter sa croix à cause de mes péchés. Notre Seigneur Jésus-Christ va être crucifié à cause de mes péchés. Et il va avoir son cœur, son oreillette droite percée par la lance à cause de mes péchés. Pas à cause des péchés des autres aussi, mais d'abord à cause de mes péchés à moi. C'est ça qu'il faut voir. Alors voilà le sens mystique donné par les pères. Jésus est dépouillé de ses vêtements, c'est-à-dire qu'il est dépouillé des Juifs. Il est revêtu de pourpre, c'est-à-dire de l'Église formée des gentils, qu'il a comme recueilli sur les rochers de la mer. Une très belle image, je vous l'explique, elle est toute simple. Donc on enlève le vêtement de notre Seigneur Jésus-Christ pour lui donner un autre vêtement. Donc le vêtement qu'on lui enlève, c'est l'entité juive. Parce qu'il est venu pour les Juifs, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. On dit ça à la fin de chaque messe pendant l'évangile de Saint Jean, à la fin de chaque messe, au début de dans l'introduction à l'évangile de Saint Jean. On répète à peu près la même idée au moment où notre Seigneur Jésus-Christ, tout bébé, enfin même avant sa naissance, parce que la Sainte Famille, Saint Joseph et la très Sainte Vierge Marie, tout angoissés, cherchent une place pour passer la nuit parce que notre Seigneur Jésus-Christ va venir. Il y a cette phrase, il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Le Sauveur du monde vient chez lui, chez ses propres créatures, on ne veut pas le recevoir. Il n'y avait pas de place chez lui, il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, c'est la même idée. Donc notre Seigneur Jésus-Christ vient chez nous et puis on ne le reçoit pas. Et donc pour reprendre ce sens mystique, donc notre Seigneur Jésus-Christ est dépouillé de l'entité juive parce que les Juifs l'ont refusé et il est revêtu d'un autre vêtement, ce vêtement de pourpre qui représente l'Église catholique. Donc l'Église catholique est l'Église du Nouveau Testament, alors que l'Église juive est l'Église de l'Ancien Testament. Donc l'Église juive de l'Ancien Testament est l'Église légitime de l'Ancien Testament, et l'Église catholique est l'Église légitime du Nouveau Testament. Donc l'Église catholique ne peut pas être l'Église légitime de l'Ancien Testament, parce que l'Église catholique à l'époque, strictement parlant, n'existait pas encore, elle n'était pas encore, bien que c'était le début de l'Église catholique, mais ce n'était pas encore strictement parlant l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il n'est pas encore arrivé. Et de même, l'Église de l'Ancien Testament n'est pas l'Église légitime pour le Nouveau Testament. Donc cette robe de pourpre représente l'Église qui va prendre la place de l'Église, l'Église juive. Voilà pourquoi l'Église prie pour que les Juifs qui suivent encore l'Ancien Testament ouvrent, puissent ouvrir leurs yeux et comprendre où est l'Église véritable. Voilà la prière de l'Église qu'on dit le Vendredi Saint avec les grandes oraisons. Oremus et pour perfidis Judaeis. Prions aussi pour les Juifs perfides. En fait, attention, il ne faut pas traduire ça par perfide. Perfide, c'est celui qui a perdu la foi. Perfide, qui est passé à travers la foi. Prions même pour les perfides juifs et demandons au Seigneur notre Dieu qu'il lève le voile de dessus leur cœur afin qu'ils reconnaissent avec nous Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Éternel, qui ne refusez pas votre miséricorde aux Juifs, même après leur perfidie, exaucez les prières que nous vous adressons pour vous conjurer de les faire sortir de leur aveuglement afin que, reconnaissant la lumière de votre vérité qui est Jésus-Christ, ils soient enfin tirés de leurs ténèbres. Donc il nous faut prier pour la conversion de conversion des Juifs. Alors, continuons les commentaires. Le sens mystique, donc, notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, prend une autre robe, la robe de pourpre, pour bien montrer qu'il y a un changement très important. L'Église juive doit disparaître à ce moment-là. Elle est remplacée par une autre Église, qui est l'Église catholique. Donc le peuple juif, j'ai déjà expliqué ça bien souvent, donc je n'y reviens pas, sinon très rapidement, le peuple juif était le peuple élu de l'Ancien Testament, mais c'est le peuple catholique qui est maintenant le peuple élu du Nouveau Testament, à condition évidemment que ce peuple catholique soit fidèle, parce que de même que le peuple juif a été infidèle au moment de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, a été rejeté, de même le peuple du Nouveau Testament, s'il est lui-même infidèle, eh bien, il sera rejeté comme les Juifs ont été rejetés par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est allé chercher un autre peuple pour remplacer les Juifs, peut très bien aller chercher encore un autre peuple pour remplacer les peuples des infidèles que nous sommes devenus à peu près tous aujourd'hui. Attention. Donc notre Seigneur se dépouille de cette Église à la fin du monde à cause de ces scandales. Il se revêt de nouveau du peuple juif. Le Père cite Saint Paul aux Romains. Lorsque la plénitude des nations sera entrée, tout Israël sera sauvé. Donc d'abord le peuple juif, puis le peuple catholique, puis à la fin des temps, conversion du peuple juif. Notre Seigneur va se revêtir donc d'abord du peuple juif, puis du peuple catholique, et enfin, à la fin des temps, il va prendre aussi sous son manteau le peuple juif qui va se convertir, au moins, peut-être pas dans son ensemble. Il est très difficile d'arriver à savoir exactement ce que veut dire Saint Paul. Les pères de l'Église ne sont pas d'accord entre eux. On parle d'un reste qui sera sauvé. Donc, est-ce que ça veut dire une conversion générale du peuple juif à la fin des temps ou une conversion partielle? On ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que la conversion ou partielle ou générale du peuple juif sera un signe de la fin des temps. C'est bien pour ça que je suis convaincu qu'on n'est pas du tout à la fin des temps puisque nous n'avons absolument pas vu ce signe qui est un signe avant-coureur justement de la fin des temps. Autre citation de Saint Bède le Vénérable. Cette pourpre dont notre Seigneur est revêtu, c'est sa chair qu'il a exposée aux souffrances, et la couronne d'épines qu'il porte sur sa tête, ce sont nos péchés qu'il a pris sur lui. Donc, la pourpre représente l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, et la couronne d'épines, les péchés qu'il a pris, surtout les péchés de l'intelligence. On voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ va être touché dans chacun de ses sens, et chacune des parties de sa nature humaine. Donc il va être touché aux pieds, à la main, aux côtés, il va recevoir des coups sur l'ensemble de son corps, la surface de son corps, et il va avoir son intelligence, la tête est le siège de l'intelligence, donc son intelligence en quelque sorte va être aussi couronnée d'épines, le couronnement d'épines, pour ça le symbole et la réparation pour tous les péchés d'orgueil, encore une fois, à chaque fois que je me prends pour un roi moi-même. Donc le bon Dieu entoure son intelligence littéralement d'épines pour réparer tous ces péchés d'orgueil qui nous ont fait considérer que nous étions indépendants dans notre intelligence. Laissez-moi penser comme je veux, laissez-moi faire comme je veux, je suis libre de faire ce que je veux. Bien non, nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons, nous sommes libres simplement de choisir le moyen le plus court et le meilleur pour chacun d'entre nous pour aller au ciel. Voilà notre liberté. La liberté n'est pas de considérer qu'il y a un ciel ou qu'il n'y a pas de ciel, ou de savoir si on va mourir ou non, parce qu'on va tous mourir, on sera tous jugés. Vous n'êtes pas libre de décider si vous allez mourir ou non, vous n'êtes pas libre de décider si vous allez être jugé ou non par notre Seigneur Jésus-Christ, vous n'êtes pas libre de décider s'il y a un ciel ou non, que ça vous plaise ou non, vous allez mourir, que ça vous plaise ou non, vous allez avoir une séparation entre le jour de votre mort, entre votre corps et votre âme, que ça vous plaise ou non, il y a un ciel et un enfer. Mais vous êtes libre de choisir le chemin qui conduit. Donc revêtons-nous nous-mêmes de cette pourpre royale, car nous devons marcher comme des rois, foulant aux pieds les serpents et les scorpions, et triomphant du péché, car nous sommes appelés chrétiens, c'est-à-dire consacrés par l'onction, comme les rois qui portaient ce même nom. Cette onction, c'est on appelle l'huile de l'onction le chrysme. Dans le mot chrysme, c'est la même racine que le mot chrétien. C'est loin, O-I-N-T, loin du Seigneur, c'est le Christ. Le Christ est loin du Seigneur. Donc parce que nous sommes chrétiens, nous devenons les oints du Seigneur. Les oints du Seigneur. Pourquoi? Parce que notre tête a été ointe avec le Saint-Crème. Donc la même huile consacrée par l'évêque le jeudi saint qui va être utilisée pour consacrer les rois. Les rois, le roi est consacré au Saint-Crème, attention. Les empereurs étaient consacrés au Saint-Crème. Les évêques sont consacrés au Saint-Crème. Les mains du prêtre sont consacrées non pas au Saint-Crème, mais sont consacrées simplement avec l'huile des catéchumènes. Par contre, la tête de l'évêque est consacrée avec le Saint-Crème. Ce sont les mains du prêtre qui sont consacrées avec l'huile des catéchumènes. Lorsqu'un prêtre est ordonné évêque, il n'y a pas besoin d'avoir ses mains reconsacrées, elles sont déjà consacrées puisqu'il est prêtre. Par contre, il va avoir une consécration spéciale de son intelligence. Pour cela qu'on va mettre de l'huile sainte sur sa tête. Non seulement on va mettre l'huile du Saint-Crème sur la tête pour bien montrer qu'il devient la tête du peuple chrétien, la tête de son diocèse, le roi, le prince de son diocèse, le prince de l'Église pour mener son diocèse à Dieu. On va même mettre sur sa tête, ouvert sur sa tête, on va placer le livre des évangiles. Pour bien montrer qu'il doit maintenant porter l'évangile à tous ses fidèles. Donc prenons donc nous-mêmes la couronne d'épines, c'est-à-dire hâtons-nous de nous couronner de mortification, d'abstinence et de pureté. Donc notre Seigneur Jésus-Christ souffre pour nous parce que je ne veux pas souffrir. Donc rappelez-vous ces deux points essentiels. Flagellation, réparation des péchés d'impureté, couronnement d'épines, réparation des péchés d'orgueil. Donc notre Seigneur Jésus-Christ prend ses péchés sur nous. Pour mieux comprendre ce texte de la Passion, on peut aussi utiliser le livre d'Isaïe. Je vous lis ce texte magnifique de la prophétie écrite par Saint Isaïe, donc dans l'Ancien Testament. Donc Saint Isaïe vivait à peu près 750 ans. Avant notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il a prophétisé au chapitre 53 du livre d'Isaïe, il a prophétisé la Passion. Voilà cette prophétie très connue, certainement une des plus belles pages de l'Ancien Testament. Il parle du Messie qui va arriver, donc qui n'est pas encore arrivé, qui va arriver presque 8 siècles après ou 750 ans après cette prophétie. Voilà ce qu'il dit en parlant du Messie. Il n'a ni éclat ni beauté, et nous l'avons vu, il n'avait pas un aspect agréable, et nous l'avons désiré, méprisé, et le dernier des hommes, homme de douleur et connaissant l'infirmité, son visage était comme caché et méprisé, nous l'avons compté pour rien. Il a vraiment lui-même pris nos langueurs sur lui, et il a lui-même porté nos douleurs, et nous l'avons considéré comme un lépreux, frappé de Dieu et humilié. Mais lui-même, il a été blessé. À cause de nos iniquités, il a été brisé à cause de nos crimes. Le châtiment pris de notre paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous avons été guéris. Nous tous, comme des brebis, nous avons erré, chacun s'est détourné vers sa voie, et le Seigneur a mis sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été offert parce que lui-même l'a voulu, et il n'a pas ouvert sa bouche, comme une brebis il sera conduit à la tuerie, et comme un agneau devant celui qui le tond, il sera muet et il n'ouvrira pas la bouche. À la suite des angoisses et d'un jugement, il a été enlevé. Qui racontera sa génération? Car il a été retranché de la terre des vivants à cause du crime de mon peuple, je l'ai frappé. Vous voyez, c'est certainement un des plus beaux textes de la Passion de notre Seigneur. On peut aussi méditer facilement la passion de notre Seigneur Jésus-Christ en plein dedans avec les textes de la liturgie du Vendredi Saint, surtout les textes des impropères. Vous pouvez très bien, pour ceux qui m'écoutent sur Internet, donc méditer les impropères. Qui sont splendides, les reproches. Les impropères sont les reproches de notre Seigneur Jésus-Christ à son peuple. C'est pas seulement au peuple juif qu'il parle, c'est aussi à nous. Hein. Que t'ai-je fait, ô mon peuple? En quoi t'ai-je attristé? Dis-le-moi. Parce que je t'ai tiré de la terre d'Égypte, tu as dressé une croix à ton sauveur. Parce que durant 40 ans, j'ai été ton guide dans le désert et que je t'ai nourri de la manne, que je t'ai introduit dans une terre excellente, que tu as dressé une croix à ton sauveur. Que t'ai-je fait? Qu'ai-je dû faire pour toi que je n'ai point fait? Tu étais une vigne magnifique que j'ai plantée, et tu as été pour moi remplie d'amertume, car dans ma soif, tu m'as donné du vin aigre, et tu as percé avec une lance aux côtés de ton sauveur. J'ai frappé l'Égypte avec ses premiers-nés pour l'amour de toi, et toi, tu m'as livré pour être flagellé. Je t'ai retiré de l'Égypte en submergeant Pharaon dans la mer Rouge, et tu m'as livré au prince des prêtres. Je t'ai ouvert un passage dans la mer, et toi, tu m'as ouvert le côté avec une lance. Je t'ai conduit dans ton voyage en faisant marcher devant toi une colonne de nuée, et toi tu m'as conduit au prétoire de Pilate. Je t'ai nourri de manne dans le désert, et tu m'as donné des soufflets et des coups de fouet. Je t'ai désaltéré avec l'eau salutaire de la pierre, et toi tu m'as abreuvé de fiel et de vinaigre. J'ai frappé les rois des Cananéens pour l'amour de toi, et toi tu m'as frappé la tête avec un roseau. Je t'ai donné un sceptre royal, et tu as mis une couronne d'épines sur ma tête. Je t'ai élevé en honneur et en gloire, et toi tu m'as attaché au gibet de la croix. Que t'ai-je fait, ô mon peuple? En quoi t'ai-je attristé? Dis-le-moi, parce que je t'ai tiré de la terre d'Égypte, tu as dressé une croix à ton sauveur. Seigneur, nous adorons votre croix, nous louons et nous glorifions votre sainte résurrection, car par le bois de la croix, l'univers entier est comblé de joie. Ô croix, objet de notre foi, arbre divin, source de grâce et de bénédiction, vous surpassez en vertu tous les arbres et tous les fruits de la terre, ô bois aimable, ô clou sacré qui portait un fardeau aussi précieux. En continuant les commentaires des pères de l'Église, nous sommes toujours à la page 30 sur le polycopier, au milieu de la page. Cela frappe la tête de Jésus-Christ qui nie qu'il soit le vrai Dieu. Comme c'est avec un roseau qu'on transcrit ordinairement la Sainte Écriture, à l'époque des pères, on écrivait avec un roseau sur une peau de papyrus ou sur une peau de cuir. Frapper avec un roseau la tête de Jésus-Christ, c'est nier la divinité de Jésus-Christ. Donc non seulement on nie la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, mais on nie sa divinité en s'efforçant d'appuyer son erreur sous l'autorité des saintes lettres. Donc, posons-nous la question toute simple, combien de fois est-ce que moi aussi j'ai frappé la tête de notre Seigneur Jésus-Christ en refusant de reconnaître sa divinité? Beaucoup, nombreux sont ceux qui refusent de reconnaître la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, commencé par Arius et tous ceux qui ont suivi l'arianisme, qui veulent bien reconnaître que notre Seigneur Jésus-Christ était la première des créatures, la toute première des créatures, mais qu'il n'était pas Dieu. Il était le Fils de Dieu, mais pas Dieu, comme tous les protestants. Les protestants reconnaissent notre Seigneur Jésus-Christ comme Fils de Dieu, attention, mais ils ne le reconnaissent pas comme Dieu. C'est pour ça que quand vous parlez avec un protestant, il faut vraiment les coincer contre le mur avec cette phrase. Est-ce que vous reconnaissez que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu? Ils vont toujours vous dire, je reconnais que notre Seigneur est Fils de Dieu. Est-ce que vous reconnaissez qu'il est Dieu? Il est Fils de Dieu. Est-ce qu'il est Dieu? Oui ou non? Et quand ils sont bloqués contre le mur, ils sont obligés de vous dire, ben non, il est Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. On crache à la face du Sauveur, lorsqu'on rejette la présence de sa grâce par des paroles d'imprécation. Il en est encore aujourd'hui qui adorent Jésus-Christ comme le vrai Dieu dans un sentiment d'une foi certaine, mais qui, par leur vie criminelle, méprisent ses paroles comme dépourvues de vérité et préfèrent à ses promesses, les charmes séducteurs de cette vie. Combien nombreux sont ceux, mes bien chers frères, encore une fois, qui sont... On peut traduire cette phrase des pères en disant des paroles modernes qui sont catholiques le dimanche de 10h à 11h30, hein, et puis qui, dans la semaine, vivent comme des païens. Encore une fois, tous ceux qui se prétendent catholiques non pratiquants sont en fait des gens qui rejettent la présence de sa grâce. qui adorent, qui prétendent adorer notre Seigneur Jésus-Christ comme vrai Dieu, c'est pour ça qu'ils vont vous dire « je crois en Dieu », mais qui par leur vie criminelle méprisent ces paroles, parce que dans la pratique, ils vont vous dire « je crois en Dieu, mais je suis catholique non pratiquant, je crois en Dieu en principe, avec mon intelligence, mais dans lorsque ma volonté entre en branle, pour me guider vers ce que l'intelligence a découvert, à ce moment-là, je ne suis plus d'accord. » Donc intellectuellement parlant, je crois en Dieu, mais dans la pratique, je fais comme si Dieu n'existait pas. Donc il est plus grave, j'ai déjà expliqué, mais j'insiste, il est plus grave d'être un catholique, se prétendre catholique non pratiquant, que d'être athée. Même si strictement parlant, il n'est pas possible d'être un véritable athée. Les athées croient toujours en quelque chose, on ne peut pas ne pas croire, c'est pas possible. Il faut être aveugle, sourd et muet pour ne pas croire à l'existence de Dieu. Beaucoup de gens se disent athées parce que c'est très pratique, ça permet d'éviter bien des problèmes. Donc vous voyez, mes bien chers frères, comme il est important de méditer sur toutes ces choses. Continuons en bas de la page 30, versets 21 à 28 du chapitre 15 de Saint Marc. Et ils contraignirent un certain Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, qui passait par là, revenant des champs, de porter la croix de Jésus. Ils le conduisirent ainsi au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du calvaire, et lui donnaient à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements, tirant au sort ce que chacun en apporterait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent, et l'inscription qui indiquait la cause de sa condamnation portait le roi des Juifs. Ils crucifièrent aussi avec lui deux voleurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accomplie cette parole de l'Écriture, et il a été rangé parmi les criminels. Et vous voyez bien ici que les évangiles se complètent les uns les autres. Ici, par exemple, dans cet évangile de Saint Marc, il ne va pas être fait mention de la conversion de Saint Dismas, le bon larron. Ça va être précisé dans un autre évangile. On verra ça plus tard. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ va être condamné comme le roi des Juifs. C'est pour ça qu'on met sur tous les crucifix les quatre lettres INRI, I-N-R-I. Beaucoup de gens me posent la question, mais qu'est-ce que ça veut dire, monsieur l'abbé, INRI? C'est pas I-N-R-I, ce sont des lettres majuscules. En fait, c'est J-N-R-J. Parce que ce sont les initiales en majuscules du texte latin. Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Et donc, c'est les premières lettres de chacun de ces quatre mots, Jesus, J, Nazarenus, N, Rex, R, Judeorum, J. Parce qu'en latin, le J majuscule et le I majuscule sont identiques. Ça représente, c'est comme un I majuscule en français moderne. Et donc, INRI, en fait, c'est J, N, R, J, Jesus, Nazarenus, Rex, Judeorum, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. La phrase a été écrite en trois langues, donc en latin, en grec et en araméen. L'araméen, c'était la langue de notre Seigneur, la langue des Juifs, qui est encore parlée aujourd'hui par certaines églises orientales, qui parlent encore la langue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, commençons un petit peu le commentaire des pères de l'Église sur ce passage. Donc, en page 31... Donc notre Seigneur Jésus-Christ va être comparé par les pères à beaucoup d'images qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Donc Abel, qui est conduit dans les champs par son frère pour y être mis à mort, dans Genèse chapitre 4. Isaac, qui porte le bois du sacrifice avec Abraham, c'est certainement un des plus beaux textes de l'Ancien Testament aussi, qui explique de façon extraordinaire la passion de notre Seigneur Jésus-Christ qui est là déjà annoncé. C'est un exemple classique qu'on utilise dans les textes de l'Ancien Testament pour expliquer le sens allégorique, c'est-à-dire un texte de l'Ancien Testament indique quelque chose qui va se passer dans le Nouveau Testament. Je vous rappelle ce texte au chapitre 22 du livre de la Genèse. Dieu dit à Abraham, Prends ton fils unique que tu chéris, Isaac, ton fils unique, et va dans la terre de vision, et là tu l'offriras en holocauste sur une des montagnes que je te montrerai. Abraham s'étant donc levé de nuit, prépara son âne, amenant avec lui deux jeunes hommes et Isaac, son fils. Et lorsqu'il eut coupé du bois pour un holocauste, il s'en alla vers le lieu que Dieu lui avait prescrit. Mais le troisième jour, les yeux levés, il vit le lieu de loin. Il dit alors à ses serviteurs, « Attendez ici avec l'âne, et moi et mon fils Isaac, nous attendons d'aller jusqu'à là. Après que nous avons adoré, nous reviendrons à vous. » Il prit avec lui aussi le bois d'holocauste et le mit sur son fils Isaac, mais lui-même portait en ses mains le feu et le glaive. Donc Isaac, le fils de la promesse, porte le bois du sacrifice sur son dos. Et ils montent ensemble au mont qui, ce mont de la promesse, est en fait, disent les pères de l'Église, le mont Calvaire. C'est là où sera la ville de Jérusalem. Donc Isaac représente notre Seigneur Jésus-Christ qui porte le bois de sa croix. Isaac dit à son père, « Mon père, celui-ci répondu, que veux-tu mon fils ?» Voici, dit Isaac, le feu et le bois, mais où est la victime de l'Holocauste ? Et Abraham répondit, Dieu, mon fils, se pourvoira lui-même de la victime de l'Holocauste. Et ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait indiqué. Abraham y bâtit un autel, déposa le bois dessus, et lorsqu'il eut lié Isaac, son fils, il le mit sur l'autel au-dessus du tas de bois. Alors il étendit la main, il saisit le glaive pour immoler son fils. Et là, Dieu va faire un miracle, il va envoyer un ange du Seigneur pour arrêter la main d'Isaac. La main d'Abraham qui ne va pas immoler son fils. Donc Isaac représente le Messie qui va arriver. Mais avec le Messie, une fois arrivé, cette fois-ci, la main du sacrificateur ne va pas être arrêtée par un ange, il va vraiment y avoir mort de la victime. Donc c'est un exemple typique, ce magnifique texte du livre de la Genèse est un exemple typique des annonces de l'Ancien Testament qui sont déjà préfigurés par l'Ancien Testament et qui annoncent justement le Nouveau Testament. Voilà, nous allons arrêter là et terminer par une prière. Donc j'ai encore avoir besoin d'un certain nombre de conférences pour terminer la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que je pourrais terminer la prochaine fois le chapitre 15, puis il me restera le chapitre 16 qui est assez court, donc je pense encore deux conférences pour terminer l'évangile selon Saint Marc. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il, nos saints anges gardiens. Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Jérôme, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.